Chapitre 52. Sur le divan. J'aurais dû étudier la psychologie, pensait Vanderberg, alors je saurais trouver les motivations de son illusion. Il paraît pourtant tout à fait sain d'esprit maintenant, à part cet unique sujet. Presque n'importe quel siège était confortable à 0,6 de gravité, mais Floyd avait fait basculer le sien en position couchée et avait croisé ses mains sous sa tête. Vanderberg se souvint tout à coup que c'était la position classique du patient, au temps de la vieille analyse freudienne, pas encore totalement discréditée. Il était heureux de laisser son compagnon parler le premier, en partie par simple curiosité, mais surtout parce qu'il espérait que plus vite Floyd se soulagerait de ce qu'il avait à dire, plus vite il serait guéri, ou rendu au moins inoffensif. Mais il n'était pas tellement optimiste. Il devait y avoir un grave problème mental, bien enraciné, pour provoquer une illusion aussi puissante. Il fut très déconcerté de découvrir que Floyd était parfaitement d'accord avec lui et avait déjà fait son propre diagnostic. « Ma note psy de recrutement était de A1 », révéla-t-il, « ce qui signifie qu'on m'a même permis de parcourir mon propre dossier, et seuls 10% des candidats obtiennent ce droit. Alors, je suis aussi stupéfait que vous l'êtes. Mais j'ai bien vu mon grand-père, et il m'a parlé. Je n'ai jamais cru aux fantômes, qui y croit? Mais cette vision doit vouloir dire qu'il est mort. Je regrette de ne pas l'avoir mieux connu. Je me faisais une joie de nos retrouvailles. Quand même, maintenant, j'ai un souvenir. » Vanderberg rompit le bref silence. « Dites-moi exactement ce qu'il a dit. » Chris sourit faiblement et répondit « Je n'ai jamais eu une mémoire infaillible et j'étais tellement abasourdi que je ne peux pas vous répéter ça mot pour mot. C'est bizarre. En y réfléchissant, je ne crois pas qu'il ait employé de mots. » « Encore pire, pensa Vanderberg. De la télépathie en plus de la survie après la mort. » Mais il se contenta de demander « Donnez-moi alors l'essentiel de cette conversation. Je ne vous ai pas entendu parler, vous savez. » « C'est vrai. » Il m'a dit quelque chose comme « Je voulais te revoir et je suis très heureux. Je suis sûr que tout va très bien marcher et qu'Univers vous recueillera bientôt. » Message spirit, typiquement insignifiant, se dit Vanderberg. Ils ne disent jamais rien d'utile ni d'étonnant. Ils reflètent simplement les espoirs et les craintes de l'auditeur. Pas d'écho d'information du subconscient.
Et après ?
Après, je lui ai demandé où étaient les habitants, pourquoi cet endroit était si désert. Il a ri et m'a fait une réponse que je ne comprends toujours pas. Je ne peux pas la citer exactement. Quelque chose comme « Je sais que vous ne pensiez pas à mal. Quand nous vous avons vu arriver, nous avons eu à peine le temps de donner l'alerte. » Là, il a employé un mot que je serais incapable de prononcer, même si je me le rappelais. « Sont entrés dans l'eau. Ils peuvent se déplacer très silencieusement quand il le faut. Ils ne ressortiront pas avant votre départ, quand le vent aura chassé le poison. » Qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire par là ? Notre échappement est filtré et sain. Et d'ailleurs, cette atmosphère est déjà presque entièrement faite de vapeur. Ma foi, se dit Vanderberg, il est normal qu'une illusion ou un rêve n'ait pas de sens logique. Cette idée de poison symbolise peut-être une terreur subconsciente de Chris qu'il est incapable d'affronter en dépit de son excellente note psychologique. Quoi que ce soit, ça ne me concerne pas. Du poison, vraiment. Le propulsif de Bilty est de l'eau pure, distillée, envoyée par Ganymède sur orbite. Mais un instant. Quelle est sa température à la sortie de la tuyère? Il me semble avoir lu quelque part.
Chris, demanda-t-il avec précaution. Une fois que l'eau est passée par le réacteur, est-ce qu'elle ressort entièrement sous forme de vapeur?
Que voulez-vous qu'elle devienne? Oh, bien sûr, si nous surchauffons vraiment, 10 à 15% se séparent en hydrogène et oxygène. En oxygène. Vanderberg fut parcouru d'un brusque frisson, bien que la température de la navette fût agréable. Il était tout à fait improbable que Floyd comprît les implications de ce qu'il venait de dire. Cela ne faisait pas partie de son domaine de connaissance.
Savez-vous, Chris, que pour les organismes primitifs de la Terre, et certainement pour des créatures vivant dans une atmosphère comme celle d'Europe, l'oxygène est un poison mortel?
Vous plaisantez?
Pas du tout. C'est même un poison pour nous à haute pression.
Oui, ça je le sais. On nous l'a appris au cours de plongée.
Votre grand-père disait vrai. C'est comme si nous avions vaporisé des gaz sur cette ville. Enfin, pas aussi grave, ce sera très vite dispersé.
Ainsi, vous me croyez maintenant ?
Je n'ai jamais dit que je ne vous croyais pas.
Vous auriez été fou de le dire.
Cela brisa la tension et ils rirent de bon cœur tous les deux.
Vous ne m'avez pas dit comment il était habillé ?
Il portait une vieille robe de chambre démodée, exactement comme du temps où j'étais petit. Il avait l'air bien à l'aise.
Pas d'autres détails ?
Maintenant que vous m'y faites penser, il paraissait beaucoup plus jeune. Il avait plus de cheveux que la dernière fois où je l'ai vu. Alors je ne crois pas que c'était... qu'il était, comment dire... réel. Plutôt quelque chose comme une image d'ordinateur. Ou un hologramme synthétique.
Le monolithe ?
Oui, c'est ce que j'ai pensé. Vous vous rappelez comment Dave Bowman est apparu à mon grand-père à bord de Leonov ? C'est peut-être son tour maintenant.
Mais pourquoi ? Il ne m'a donné aucun avertissement, il ne m'a transmis aucun message particulier. Il voulait simplement me dire adieu et me souhaiter bonne chance.
Pendant quelques instants embarrassants, la figure de Floyd se convulsa, mais il se ressaisit vite et sourit à son compagnon.
J'ai assez parlé. À vous maintenant d'expliquer ce que fait un diamant d'un million de millions de tonnes sur un monde composé de glace et de soufre.
Ce doit être une drôle d'histoire.
« C'en est une !» reconnut le professeur Rolf Vanderberg.